Il n'y avait pas que le public qui était là, il n'y avait pas que Stéphane, il y avait des bons musiciens, effectivement, il y avait Stéphane qui avait un talent certain. Et c'est vrai que Stéphane a beaucoup de talent. Il y avait aussi le public qui était là. Mais il n'y avait pas que cette ambiance qui était là non plus, il y avait aussi la présence de Dieu.
Amen.
Ça va déjà mieux. Il n'y avait pas que l'ambiance, il n'y avait pas que les musiciens qui étaient là, qui ont un talent certain, et puis Stéphane également. Non, j'arrête là. Bon. Non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu à cœur ce matin de parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu est quelque chose qui est important. Quand on lit la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la présence de Dieu est là. Et on va prendre quelques exemples, mais j'ai vécu aussi quelque chose, moi, pendant ce concert, où j'ai eu l'occasion de me balader, pour ceux qui ont vu, j'avais mon appareil photo, donc je me suis mis sur certains angles, et puis j'ai fini le concert là-bas, près de la porte. Et lorsque j'allais dans le hall, il faisait froid. Lorsque j'étais ici dans la salle, il faisait chaud. Vous voyez où je veux en venir? Non seulement il faisait chaud, mais il y avait tout ce contexte qui était là, avec bien évidemment des gens qui louent Dieu, un peuple, le peuple de Dieu qui loue son Dieu. Il y avait Stéphane qui œuvrait dans son talent, mais on sentait une présence, on sentait quelque chose qui était là. On sentait que c'était au-delà d'une ambiance. On sentait que Dieu agissait. Et peut-être qu'on ne voit pas déjà les fruits de ce concert, mais je sais qu'on va voir des fruits de ce concert. On va voir des fruits de ce concert. Pourquoi il va y avoir des fruits? Parce que la présence de Dieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne peut pas ressortir de la présence de Dieu en étant le même. Ce n'est pas possible. On a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu pour qui rien n'est impossible. Et cette présence, elle était là, elle était palpable. Et donc, quand je sortais dans le hall, pour me rafraîchir un petit peu, j'avais froid. Je me rafraîchissais, et puis quand j'avais... Bon, je n'avais pas froid, mais hop, je rentrais dans la présence, là, et il faisait chaud. Et on sentait, j'étais bien. On était tout un groupe, il y avait aussi notre petite ambiance là-bas dans le groupe, avec bien évidemment Virge, qui n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Mais on était bien, il y avait quelque chose qui se passait. Et ça a fait du bien. Moi, quand je suis rentré à la maison, j'étais bien. Il y avait quelque chose qu'on avait goûté. On s'était baigné dans quelque chose. On était rentré dans une eau, dans un torrent d'eau vive qui était là, qui nous a rafraîchis. Et c'était bon. Il faut qu'on puisse rechercher cette présence de Dieu. Il faut qu'on puisse... Pascal, il faut que tu te mettes sur PowerPoint. C'est pas maintenant, la vidéo. Il faut qu'on puisse rechercher cette présence et qu'on puisse aller encore de l'avant et encore de l'avant. Et ce matin, ils sont là, je vais en profiter. Vous avez chanté des chants. Oui, il n'y en a qu'un qui a chanté des chants ce matin. On a chanté plein de chants où on a pu lire, on a pu chanter justement « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. »« En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. »« Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. » Vous l'avez chanté ça ce matin. Assurez-moi, vous ne faites pas un karaoké. On a chanté d'autres chants « Mon cœur t'appartient ». Et je te louerai, Seigneur, je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face. Présence. La présence de Dieu. Pour qu'on voit la face de quelqu'un, il faut qu'il soit là, présent. Vous avez chanté ça ce matin. Je vais arrêter là parce que les chants et... merci Antonia, parce que à croire qu'on a le même esprit qui parle à toi et à moi. Peut-être plus à moi qu'à toi, mais bon. Je plaisante, je plaisante. C'est du second degré. On va commencer par lire... Jean 15, les versets 1 à 21. Pourquoi je vais lire ça? J'ai souvent cette image, c'est une image que j'avais eue à Waterloo la dernière fois que j'ai prêché. Avant de monter sur l'estrade, le Seigneur m'a montré la porte. Il m'a montré la porte de l'église. Je dis, mais pourquoi la porte? Et en fait, la porte, on peut mettre plein de choses derrière une porte. On peut mettre des choses derrière une porte, on peut mettre des choses devant une porte. Une porte, elle peut être fermée. Une porte, elle peut être ouverte. Une porte peut être vitrée. Une porte peut être pleine, une porte peut être blindée, une porte peut être fragile. On peut franchir la porte, on peut rester de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire rester sur le seuil. Je vais arrêter là, mais imaginez tout ce qu'on peut faire avec une porte. On peut empêcher le froid de rentrer, on peut empêcher la chaleur de sortir, ou vice-versa. Et la porte est importante. La porte, elle est là pour empêcher de rentrer, elle est là pour accueillir. La porte, elle peut faire en sorte qu'on puisse rester avec une crainte, parce que si la porte est fermée, on peut avoir peur de la franchir. Et cette porte, elle peut être ouverte et nous donner l'assurance de pouvoir franchir son seuil. Cette porte, elle est là, et à elle toute seule, même si elle ne parle pas, en fonction de sa condition, fermée, ouverte, vitrée, pleine, blindée, fragile, eh bien, on va avoir notre cœur qui va agir en fonction de ça. On va se dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en face de la porte, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre cette porte? Est-ce que je la franchis? Et Antoine, la semaine dernière, elle l'a bien dit, il a dit que des fois, il y a des personnes qui sont devant la porte de l'église et qui n'osent pas franchir le seuil. Ça m'est arrivé, des fois, de ne pas oser franchir des seuils. Excusez-moi, hein. Toujours le même rhume. Et si on associait cette porte à la présence de Dieu, si on disait, Seigneur, pour que je puisse rentrer dans ta présence, il faut que je franchisse une porte. Et Seigneur, il faut que tu me donnes le courage de franchir cette porte. Il faut que tu me donnes l'assurance de pouvoir la franchir, cette porte. Parce que je sais que de l'autre côté de cette porte, il y a quelque chose de bon pour moi. Et cette porte, je sais que derrière, il y a ta présence, et que si je rentre dans ta présence, je vais être bien. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ma porte, même si elle peut être fermée comme ça visuellement, sache qu'elle est grande ouverte pour toi. Elle n'est pas barrée, j'ai pas pris ma clé, fermé, barré et renlevé la clé pour pas que tu rentres. Au contraire, moi, cette porte, tu la franchis quand tu veux. Mais pour ça, à nous de faire cette démarche. À nous de dire, ok, je franchis cette porte. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas rester le même. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ressortir de la présence de Dieu et dire, « Seigneur, voilà, moi j'ai goûté à ta présence, c'était bien, c'était chaleureux, et puis ben, je suis toujours le même. » Parce que là, oui, effectivement, si on se dit ça, on reste dans une ambiance. On n'est pas dans la présence de Dieu, on est dans une ambiance. Et une ambiance, on peut la trouver n'importe où. À partir du moment où on a des bouts en train qui sont là dans une soirée, ou qu'on a une musique, il y a une araignée qui est en train de descendre là. Eh bien, on peut rester dans une ambiance ou rentrer dans la présence de Dieu. Je l'allume. Rechercher la présence de Dieu. Jean 15, les versets 1 à 12. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Souvent, dans la Bible, Dieu utilise des métaphores avec les fruits, avec la vigne. Et là, on commence comme ça. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, il y a déjà cette notion d'être en moi, d'être dans ma présence. Si vous êtes dans ma présence, je vais faire en sorte que vous puissiez porter du fruit. Par contre, si vous n'êtes pas dans ma présence, forcément, comme vous n'êtes pas dans ma présence, le fruit que vous allez porter n'est peut-être pas forcément de moi. Mais cette présence, eh bien, ça va permettre de vous faire porter du fruit. Et Dieu, si vous faites l'effort de garder, de rester dans la présence, dans ma présence, eh bien, je vais vous faire croître, je vais vous faire grandir. Et non seulement ça, votre croissance va être faite par Dieu. C'est Dieu qui va permettre que vous puissiez grandir. Et à partir de là, il va vous émonder. Et le fait d'être émondé, vous allez porter encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que déjà, vous êtes dans ma parole. Déjà, vous connaissez mes principes. Vous restez dans mes principes. Mais ce n'est pas le tout. Vous verrez tout à l'heure, j'ai une dia où il est mis, ce n'est pas le tout de connaître la Bible. C'est mieux quand même de connaître son auteur. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas tout de connaître la Bible. Il y a des gens qui connaissent la Bible sur le bout des doigts. Mais ils ne connaissent pas son auteur. C'est-à-dire que ça reste un bouquin. Et si on lit un bouquin, la Bible ne peut pas nous parler, ne peut pas nous faire grandir. Donc, c'est ce que dit Jésus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce que Jésus a annoncé verbalement, on l'a aujourd'hui dans la Bible. Et ce sont des principes qu'on se doit de suivre. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Pareil, toujours la même notion de présence. Si vous restez dans ma présence, je resterai présent pour vous. Restez avec moi. C'est Jésus qui le dit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, s'il ne demeure dans la présence de Dieu, attaché au tronc, eh bien, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, porter du fruit. C'est ce que dit le verset ici. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Je suis. Faut savoir que Dieu a mis plusieurs fois dans la Bible « je suis ». Dieu est. Le nom de Dieu, c'est « je suis ». Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Hein, là, il y a une notion de quantité. Plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus vous allez porter de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est cash. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvent, on voit dans les articles, hein, quand on voit des reporters qui viennent filmer, j'ai vu il y a quelque temps de ça, une interview ou un reportage plutôt sur l'église de Mulhouse, la porte ouverte. Quand on voit le ressenti de l'intervieweur, on est pris pour des fous. C'est vrai que quand on nous voit ce matin louer les bras au ciel, louer un Dieu, quand on apporte quelque chose, quand on voit Sandy qui avait les larmes qui coulaient sur ses joues, on connaît cette présence de Dieu. Un intervieweur, quelqu'un qui est extérieur, peut être touché par cette présence, mais il peut de lui-même rester à l'extérieur. Et à partir de là, il aura un jugement qui viendra de sa tête. Et donc forcément, quand on voit les reportages sur les églises évangéliques, souvent on est pris pour des fous. Alors regardez, ces fous-là, ils lèvent les bras. Regardez, quand on prie pour eux, des fois, il y en a certains qui tombent, etc. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette notion de présence. L'intervieweur ne connaît pas cette présence. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, je l'ai déjà abordé dans certains de mes prêches. Je ne vais pas revenir dessus. Mais sachez que si vous êtes conforme à ce que Dieu veut pour vous dans votre vie, vous pouvez demander ce que vous voulez. Si ça va dans son sens, bien évidemment, Dieu vous le donnera. Amen. J'attends les amens ce matin, je ne sais pas. Je suis obnubilé par les amens. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Je vais déjà aborder ce point-là parce que c'est un point que je vais aborder forcément plus tard. L'amour de Dieu. Il y en a beaucoup qui se dédouanent, qui se disent « Bof, Dieu est amour. Je peux pécher, il va me pardonner. » Effectivement, Dieu pardonne. Il pardonne de tout, si on passe par une repentance. S'il n'y a pas de repentance dans votre cœur, s'il n'y a pas un esprit de repentance, Dieu ne vous pardonnera pas. Non seulement ça, mais Dieu haït le péché. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Si Dieu est saint, la sainteté de Dieu fait qu'il ne peut pas être dans la présence du péché. Et que si vous péchez, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Ça va ? Je dois la refaire ? Non. Hein. On ne peut pas se dire, voilà, moi j'ai péché, ok, Dieu va me pardonner, et puis je recommence mon péché, etc., parce que Dieu me pardonne. Il faut arrêter de dire, Dieu est amour, mes frères et sœurs, Dieu est amour. On a eu un cours la semaine dernière, vous savez que je suis l'école biblique de l'église de Mulhouse, on a eu un cours sur la personnalité de Dieu. Ça m'a frappé, ce cours m'a fait un bien fou et un mal fou. Parce que j'ai découvert des choses sur qui est Dieu. Et on ne connaît pas Dieu. Je ne connaissais pas, peut-être pas Dieu comme il aurait fallu que je le connaisse. Parce que Dieu, lorsque, dans sa sainteté, il a une sainteté qui est telle qu'on ne peut pas mesurer cette sainteté. Parce qu'il est la sainteté. Dieu est amour, effectivement. Mais c'est toujours difficile et toujours facile de dire « Dieu m'aime ». Il t'aime comment, Dieu ? Comment Dieu t'aime ? Oui, mais ça va plus loin que ça. Vous savez, comme moi, que l'Ancien Testament est traduit du grec. Dans le grec, il y a quatre mots pour décrire l'amour. Il y a eros. Eros, c'est l'amour charnel. Tout ce qui est érotique, c'est l'amour charnel, corps à corps, etc. etc. Vous avez... Alors, je vais le reprendre, hein, parce que c'est un mot, j'ai toujours tendance à le confondre. C'est stergo. Hop, je vais le reprendre. Voilà, stergo. Stergo, donc, qui est en grec, qui veut dire amour, c'est l'attachement filial à une personne. Le père qui aime sa fille, la fille qui aime son père, ça, c'est filial, c'est familial. Donc l'amour, là, on va parler d'amour stergo. Ensuite, vous avez l'amour philéo. L'amour philéo, on va au-dessus de stergo, c'est-à-dire que là, c'est de l'amour universel. L'amour universel, ça veut dire qu'on arrête le nombrilisme. On ne se regarde pas le nombril, mais on regarde les gens autour de nous et on les aime d'un amour philéo. Et ensuite, vous avez l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour spirituel. C'est l'amour dont Dieu vous aime. Et il faut savoir que dans le Nouveau Testament, seuls les mots philéo et agapé sont utilisés. Ce sont les deux seuls mots grecs pour décrire l'amour qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Donc on peut très bien dire Dieu m'aime, mais Dieu m'aime de façon agapée, spirituelle. L'agapé, c'est un partage. Dieu veut le meilleur pour nous. Son amour est dans le sens de vouloir le meilleur pour nous. Est-ce que ça va ? Quand on nous dit dans la Bible « aimez vos ennemis », ça ne veut pas dire aller leur faire un bisou sur le front tous les matins quand on se lève. C'est d'aimer ses ennemis dans le sens vouloir le meilleur pour eux, c'est-à-dire qu'on leur pardonne de ce qu'ils nous ont fait. Mais ça ne veut pas dire que ça va devenir nos meilleurs copains du monde. C'est là où la différence est dans le mot « amour ». Et donc, il faudrait qu'on puisse lire la Bible toujours avec un dictionnaire grec ou hébreu, en fonction de l'endroit où on est dans la Bible, pour bien voir quel terme Jésus utilise ou Dieu utilise dans l'amour. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? D'accord ? Donc c'est pour ça que là, « demeurez dans mon amour, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, d'un amour agapé, partage. » Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà, donc gardez à l'esprit que le mot amour, en français on n'en a qu'un, on a le mot amour. Si on reprend le texte originel, ou original, on ne sera pas dans le même mot. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. À partir du moment où on respecte tout ça, qu'on reste dans la présence de Dieu, qu'on est dans un amour, quel qu'il soit, dans une circonstance, eh bien Dieu va faire en sorte qu'on ait une joie qui soit parfaite dans nos cœurs. C'est beau comme conclusion, vous ne trouvez pas ? Parce qu'on a un Dieu qui veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour toi, pour moi, pour nous. Il veut le meilleur. Vous vous souvenez tout à l'heure, demandez ce que vous voudrez et Dieu vous l'accordera. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La Bible, elle est pleine de promesses comme celle-là, parce que Dieu veut le meilleur pour vous, pour moi aussi, et surtout pour moi. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La difficulté pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Si ce matin, tu es ici, présent, et que tu ne connais pas Dieu, n'aie pas peur. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu pendant la louange. Avant même que Rita ou que Sandy parlent, j'avais à cœur qu'il y a ici une personne qui a peur. Je ne l'ai pas dit, parce que je me suis dit, je vais peut-être en parler durant mon prêche, effectivement, c'est ce que je fais. Pourquoi ? Parce que on peut avoir cette crainte, toujours avec le système de la porte, cette peur de franchir cette porte, de rentrer dans la présence de Dieu, parce que, et là je vais vous ramener une semaine en arrière, lorsque vous avez entendu le témoignage de Sandy, de Chanel, excuse-moi Sandy, mais Chanel a bien dit que des fois on se dit, si je deviens chrétien, eh bien je vais avoir plein d'interdits. La vie de chrétien, c'est monastique. Ça se dit monastique ? Oui, monastique. J'ai un doute. Des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. Pardon. Mais on peut avoir la crainte de rentrer dans cette présence de Dieu parce que, justement, on est à se dire « Mais qui je suis pour rentrer dans la présence de Dieu ?» Il y a quelques mois de ça, j'ai un ami qui est militaire. J'en ai déjà parlé, je crois que c'est dans mon dernier prêche ou avant-dernier. Et c'est un témoignage qui m'a marqué parce que lorsque je l'ai eu au téléphone, c'est un militaire qui est revenu d'Afghanistan. Alors imaginez les horreurs qu'il a pu voir en Afghanistan. D'ailleurs, il ne veut même pas en parler tellement il a vu des choses. Bon. Et il m'a dit, mais je suis plus digne de devenir chrétien. Ça a été vraiment la conclusion de cette discussion qu'on a eue ensemble. Il m'a dit, mais j'ai vu tellement de choses là-bas que je ne peux plus rentrer dans la présence de Dieu. Dieu ne me pardonnera jamais de ce que j'ai pu faire ou voir en Afghanistan. Et c'est là la difficulté, c'est de pouvoir rentrer dans sa présence. Mais déjà, il faut savoir que Dieu accepte tout le monde. Dieu accepte de pardonner. Dieu accepte la personne qui a fait le pire des maux. Bien sûr, le pardon, il est entier. Et Dieu demande de ne pas recommencer ce style de choses, bien évidemment. Mais Dieu accepte. Dieu accepte à partir du moment où on a une repentance sincère dans son cœur. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu? Eh bien nous, la personnalité, chacun. On est tous différents devant Dieu. Et une chance. Parce que si on était tous les mêmes ici, ce ne serait pas rigolo, avoir une église avec des robots. Mais aujourd'hui, on a une société de consommation. On est tous devant Facebook, devant Internet, devant sa télé, ou avec des amis, ou tout le temps au club de foot, ou etc., etc. La présence de Dieu nécessite une quantité aussi. C'est-à-dire que Dieu demande, Dieu souhaite qu'on puisse rester en contact avec lui. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller sur Facebook, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller sur Internet, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller jouer au foot. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut qu'on puisse garder à l'idée qu'on ne vit plus pour nous, mais qu'on vit pour Dieu. Et que pour vivre pour Dieu, on se doit de rester dans sa présence. J'ai plaisir chaque matin lorsque ma fille ou mon fils vient de me faire un petit bisou pour me dire « bonjour papa ». J'ai beaucoup de plaisir à leur faire des câlins. J'ai plaisir à les voir grandir. J'ai plaisir à les voir dormir. Tous les soirs, je vais les voir dormir avant de me coucher. Parce que je les regarde dormir, ils sont tellement paisibles. Et ça, depuis leur naissance. Et Dieu fait la même chose avec vous. Dieu aime porter les regards sur toi. Dieu aime voir ta croissance. Dieu aime voir ton cœur, le désir de ton cœur, les désirs de ton cœur. Dieu aime voir que tu as un feu pour lui. Et un feu, ça s'alimente. On se doit d'alimenter le feu pour Dieu. Donc effectivement, notre planning quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, notre planning est tellement chargé que des fois on en oublie d'aller voir Dieu. De dire bonjour papa. De lui dire, voilà, je te souhaite une bonne journée. Il va forcément passer une bonne journée, mais bon, j'aimerais pas être dans ses baskets des fois, parce qu'il a tellement de choses à gérer. Avoir un père, connaître la présence du père. On va faire la petite minute lamentation. Aujourd'hui, mes enfants ont 10 ans et demi. Ils vont prendre 11 ans au mois de juillet. Je dis mes enfants, ce sont des jumeaux, pour ceux qui ne le savent pas. Lorsque j'ai eu 10 ans et demi, mon père à moi est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, mes enfants vont me dépasser, vont connaître leur père plus longtemps que moi je n'ai connu le mien. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et je n'ai pas connu depuis l'âge de 10 ans et demi, donc je n'ai jamais eu de père charnel, ou jamais pendant 10 ans. Donc, mais pendant 10 ans, ne fais pas vraiment attention. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, mais mon père a disparu. Et il y a eu un manque qui était là. Je me suis retrouvé seul avec ma mère m'a élevé, et je me suis fait moi-même. Parce que je n'avais pas ce père qui me donnait l'exemple, sauf quand j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que là, eh bien... Il y a eu un père qui était là, il y a eu une présence. Alors bien évidemment, j'ai vécu mon adolescence comme tout le monde. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai vécu des choses dans ma vie qui sont plus ou moins bien. Mais ça n'empêche que Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu était toujours là. Dieu a toujours permis que je puisse revenir à lui. Dieu a toujours permis que ce que je vive, que ce soit du bon ou du mal, eh bien Dieu me dise, Fred, je suis là, je suis près de toi, n'hésite pas, ne t'inquiète pas, viens me voir. Et puis à partir de là, on continuera à marcher ensemble. La présence du Père. La présence du Père est quelque chose qui est important. Vous vous souvenez du thème de mon dernier prêche, la foi. Je vous ai parlé de la foi la dernière fois. La foi de la dernière fois, ça fait redondant, mais bon. Aujourd'hui, la présence de Dieu va permettre à ce que l'on puisse avoir cette croissance pour pouvoir rentrer dans cette foi. Il y a des gens qui vous disent, mais Dieu n'existe pas. Parce que les gens ne connaissent pas la présence de Dieu. Mais quand il fait nuit, vous pouvez leur dire, est-ce que le soleil existe ? Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que le soleil n'existe pas. Au contraire, demain matin, le soleil va se lever. Mais même si tu penses que Dieu n'existe pas, eh bien, sache que Dieu existe. Moi, c'est ce que je dis à des gens. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais de toute façon, Dieu n'existe pas. » Je leur réponds « Mais oui, tu peux croire ça, mais sache que malgré tout, même si tu crois qu'il n'existe pas, il est là. » Et que tu le verras. Un jour, tu seras face à face devant lui. Et que tu auras à rendre des comptes de ce que tu as fait. Parce que Dieu va t'annoncer, Dieu t'a annoncé, Dieu va se servir de quelqu'un comme chacun d'ici entre nous pour dire à cette personne « Mais oui, Dieu existe. » À toi de faire la connaissance de Dieu, de rentrer dans sa présence pour que cette présence puisse t'apporter tout le bon, le meilleur que Dieu veut te donner. Souvenez-vous de ce verset. Il faut qu'on puisse développer cette acuité visuelle, cette acuité auditive, cette acuité de cœur, de dire « je ressens la présence ». Et ça, c'est une croissance. On va commencer à connaître un peu la présence de Dieu, et plus on va être dans la présence de Dieu, et plus cette acuité, cette sensibilité à la présence de Dieu va se développer. Quatre épisodes dans la Bible. Genèse 3, 8 à 10. Alors, ils entendirent... Alors, on parle d'Adam et Ève. Hein. On parle d'Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Et, Ève a fait manger le fruit défendu à Adam, donc ils en ont mangé tous les deux. Une femme. Hein. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. La présence de Dieu. Dieu se promène. Le soir, Dieu venait dans le jardin et se baladait. Sauf que Dieu n'est pas une personne physique. Dieu est esprit. Et Dieu, là, par son esprit, parcourait le jardin, se baladait dans le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. De l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Comme si Dieu ne le savait pas. « Où es-tu ?» Dieu est humour. Et ouais, où es-tu? Essayons de nous projeter dans la scène. Bon, on va mettre de côté qu'ils sont nus, hein, bien évidemment. Enfin, quoi qu'ils ont mis une feuille de vigne. Bon. Mais essayons de nous mettre dans la scène. Ils ont, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, connu le mal. À une seconde là, ils ne sont complètement... innocents du mal, du bien et du mal, et d'une seconde à l'autre, ils mangent la pomme, ou le fruit, hein, on dit. Et ils savent qu'ils sont nus, ils ont la connaissance du bien et du mal. Et ils sont là, ils savent que Dieu est là. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, en plus de ça, vient. Et Dieu vient, mais il les taquine. Où es-tu? Et comment Dieu a dit ça? Où es-tu, Adam? Je peux le dire comme ça. Où es-tu, Adam? On peut mettre le ton qu'on veut derrière. Donc il peut y avoir du sarcasme. Dieu pouvait être sarcastique. Mais le résultat était le même. Dieu, dans sa présence, est venu voir Adam et Ève. Donc il les a chassés du jardin. Donc là, on voit déjà la présence de Dieu. Déjà, dès le début du monde, Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers. Et il était déjà présent avec Adam et Ève. Le peuple d'Israël... Donc on continue dans l'Ancien Testament. Ensuite, bon, il y a eu Adam et Ève, il y a eu tous ceux dans la descendance d'Adam et Ève, bien évidemment, on est tous de la descendance d'Adam et Ève. Le peuple d'Israël était un peuple désobéissant. Lorsqu'il y avait quelque chose qui allait mal, il se rebellait contre Dieu. Et Dieu, à maintes reprises, est revenu voir son peuple. Alors il y a eu des choses hein, qui se sont passées, etc. Mais ça n'empêche que quand le peuple de Dieu est parti dans le désert, Dieu était là. Dieu était là. Dieu leur a dit, si vous me faites confiance, si vous avez cette foi en moi, eh bien ma présence sera là. Et Dieu les accompagne, non pas corporellement, non pas physiquement, mais ce côté physique, c'est par une colonne de nuée et une colonne de feu la nuit. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et Dieu aurait pu dire, attendez, peuple, à chaque fois vous me critiquez, quand il y a un truc qui se passe chez vous, c'est de ma faute. Vous êtes gentils, mais je vais vous laisser aller dans le désert tout seul. Non. Dieu est un Dieu bon. D'ailleurs, c'est un pléonasme. Quand on dit, les gens disent, oh bon Dieu, c'est un pléonasme. Dieu est bon. Mais Dieu est là, avec son peuple. Et Dieu pardonne. Parce que Dieu aime. Dieu veut le meilleur. Dieu veut le meilleur pour chacun. Là, je ne vais pas tout lire, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Ananias et Saphira. Qui connaît l'histoire d'Ananias et Saphira? Il faut savoir que cette histoire, c'est un mensonge. Là, on parle bien de la présence de Dieu. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu est saint. Dieu ne peut pas être dans la présence du péché. Ici, il y a eu un mensonge. Qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Boum. Il n'a pas eu même le temps de repentance. Il a, on va dire, puni, hein, forcément, hein, puisque la présence de Dieu ne peut pas être en association avec le péché. Ananias et Saphira ont été tout de suite foudroyés sur place, l'un après l'autre. Ils ont été enterrés à 20 minutes d'intervalle. Donc la présence de Dieu, c'est bien de la chercher. Mais à nous aussi, de faire en sorte de pouvoir être dignes de la présence de Dieu. Ça, c'est dans Actes des Apôtres. Il y en a certains qui pourraient me dire, oui, mais peut-être que c'était dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, pour être agréable à Dieu, on faisait des sacrifices. On prenait un bœuf, on le zigouillait, on versait le sang, etc. On amenait ça dans le temple, etc., etc. Là, on est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. On est dans les Actes des Apôtres. C'est l'Église primitive, c'est la première Église. C'est là où on a commencé à appeler les chrétiens chrétiens. La présence de Dieu était telle que dès qu'il y avait un péché, boum! Troisième épisode. Enfin, avant, il y a le psaume. Hein. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Matthieu 27, le dernier épisode. Là, la présence de Dieu est toujours présente. Il est toujours là, Dieu. Et pourquoi j'ai pris cet épisode en dernier épisode ? Parce que là, on parle carrément de Jésus. C'est Jésus, c'est son fils, c'est son propre fils qui est sur une croix. Alors je ne vais pas relire tous les épisodes, vous savez comment s'est passée la crucifixion de Jésus. Mais même Jésus, à un moment, a eu un doute. Il dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu ? Et Dieu est là. Dieu est présent. Et Dieu est présent même dans les moments difficiles pour toi. Dieu est présent. Tu peux vivre des choses difficiles, tu peux penser que Dieu n'est plus là dans ta vie. Je l'ai vécu. Mais Dieu est là. Dieu, à un moment ou à un autre, va attendre soit de ton propre chef que tu dises, Seigneur, ok, au secours, là, j'en peux plus. Mais dans ces cas-là, c'est parce qu'on essaie d'agir humainement, charnellement, nous-mêmes. Mais il faut savoir que Dieu est là. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Pourquoi ce verset ? Tout simplement parce que lorsque Jésus a rendu l'âme, qu'il a soupiré, enfin qu'il a expiré, donc son dernier souffle, qu'est-ce qu'a fait Dieu ? Il a déchiré le voile du temple, de haut en bas. Le voile s'est déchiré. Le voile était là pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint était l'endroit où on avait mis l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était la présence de Dieu. On pourrait aller aussi dans les épisodes d'Obed-Edom, etc. Mais la présence de Dieu était telle qu'on ne pouvait pas rentrer dans sa présence. Lorsque le sacrificateur, juste une petite page d'histoire, lorsque le sacrificateur, une fois par an, devait rentrer dans la présence de Dieu pour emmener les péchés du peuple, déjà il devait se purifier un certain nombre de fois avant de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Le sacrificateur était le représentant de Dieu sur terre, un peu, hein, c'est un peu ça, hein, une sorte de pape. Et on lui mettait une corde à la cheville. Et le sacrificateur, on lui disait, allez, vas-y, tu rentres maintenant, t'es prêt ? Alors le sacrificateur, il devait avoir les pétoches, hein. Honnêtement, s'il n'était pas assez saint, il savait qu'il rentrait dans la présence de Dieu. Et le sacrificateur rentrait, et s'il n'était pas assez saint devant Dieu, puisque Dieu est saint, et que Dieu ne peut pas être en association avec le péché, le sacrificateur, boum, il était instantanément foudroyé. Et grâce à la corde, on ramenait le corps du sacrificateur. D'accord ? Et Dieu, lorsque Jésus a expiré, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré le voile de haut vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à la présence de Dieu. On a accès à la présence de Dieu. On a accès à la présence de Dieu. On peut aller vers notre Père et on peut lui dire, Père, Papa, on peut mettre notre tête sur son épaule. On peut lui demander ce qu'on veut et Dieu nous l'accorde. Ne demandez pas de Ferrari. Hein. Ouf, si vous avez les moyens de l'entretenir. Est-ce que ça va ? La présence de Dieu est quelque chose que l'on se doit de rechercher. On doit rechercher cette présence. Il faut qu'on puisse la goûter, il faut qu'elle soit palpable. Parce qu'à partir du moment où on sera dans la présence de Dieu, on pourra demander ce que l'on voudra. Dieu nous l'accordera. J'ai un feu dans mon cœur pour voir des guérisons et des miracles ici. Il y en aura. Que vous le croyez ou non, il y en aura. Parce que j'ai cette foi en Dieu. J'ai la foi en mon Père céleste. Parce que je lui demande, je lui dis, Seigneur, non pas par curiosité, non pas pour dire « Tiens, c'est bien, on va avoir un miracle, c'est cool », mais pour montrer la puissance de Dieu. Le témoignage de l'église de Mulhouse, vous savez pourquoi aujourd'hui ils sont 2500 membres ? Parce qu'il y a des miracles dans l'église. Et des guérisons, entre autres. Attention, hein, je ne dis pas que les gens se convertissent parce qu'on veut avoir un miracle, hein. Bien au contraire. Mais ça montre la puissance de Dieu. La présence de Dieu est là, il touche. La présence de Dieu est là, il guérit. La présence de Dieu est là, il peut se passer tout ce qu'on peut imaginer. Et vous reprenez la Bible, hein. Regardez tout ce qui s'est passé dans la Bible. Quand on voit qu'une mère est capable de se séparer en deux, quand on voit qu'il peut y avoir une nuée qui est devant le peuple, quand on voit Daniel dans la Géhenne qui n'a pas brûlé, etc. Enfin, vous voyez ? Enfin, c'est Étienne, pardon. Non, c'est Daniel. C'est Daniel. Ouais. Oula, oups. Connaître la Bible est une chose, connaître l'auteur en est une autre. Enfin, je ne vous cache pas, j'ai trouvé ça sur Facebook. Donc je passe aussi du temps sur Facebook. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas l'auteur de la Bible, que dalle. Rien. Peanuts, walou. Ça ne sera rien. Parce que Dieu veut. Dieu, on a un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu qui est jaloux voit le temps que l'on passe ailleurs que dans sa présence. Je dis ça pour moi, hein. Attention, hein, j'ai aucune critique, aucun jugement. Je passe du temps aussi dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut toute la gloire. Dieu veut tout de nous. Il nous aime d'un amour où il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, tu peux être étudiant, tu peux être salarié, tu peux être sans emploi, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Et tu verras, Dieu agira. Je ne vais pas revenir sur nos témoignages. Nous, on a vécu le principe de la dîme. C'est vrai qu'on en parle souvent. Le principe de la dîme. Seigneur, je te fais confiance. C'est vrai que j'ai eu une période de chômage. Malgré ma période de chômage, j'ai continué à donner ma dîme. On a continué à donner la dîme. Parce qu'on savait qu'on avait confiance en Dieu et que Dieu pourvoirait. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais. On ne s'est même pas aperçu que j'étais au chômage. Parce que Dieu pourvoyait. Faites-le, mettez Dieu à l'épreuve. C'est le seul sujet dans lequel on peut mettre Dieu à l'épreuve, c'est dans les finances. C'est le seul sujet. Faites-le. Ayez le cran. Tapez-vous le culot de donner votre dîme. Et vous verrez. Là, je vais demander à, s'il te plaît, à Alex, la présence de Dieu. Alors, avant que tu la lances, la vidéo, s'il te plaît, je vais juste lire un petit texte. Cette vidéo, elle m'a touché. Parce que j'ai aussi, je suis assez sensible lorsque je vois la relation entre un père et son fils. Quand je vois un film et que je vois un père qui prend son fils dans ses bras, ça me fait pleurer. Je suis désolé, je ne suis pas une Madeleine hein, non plus, mais tout simplement parce que je n'ai pas connu ça. J'ai pas eu le temps de prendre mon père dans mes bras. Un jour, il y a un fils qui a demandé à son père, « Papa, est-ce qu'on pourrait faire un marathon ?» Le père a dit oui. Ils ont fait un marathon. T'as déjà vu ? Je vais la repasser parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Ça dure 5 minutes la vidéo. 4, un peu plus de 4. Une deuxième fois, le fils est allé, a demandé à son père, « Papa, on peut faire un marathon ?» Le père a dit oui. Ils ont fait un marathon. Et la dernière fois, le fils a dit, « Papa, on ne ferait pas le Iron Man ?» Alors Iron Man, c'est pas le bonhomme hein, qui est sorti au cinéma mercredi et pour lequel mon fils veut absolument qu'on aille le voir. « Papa, quand est-ce qu'on va voir Iron Man ?» C'est le marathon le plus dur. On fait 7 kilomètres de natation. On fait, une centaine de kilomètres, je les avais là, mais on fait du vélo, on fait de la natation et un gros marathon de 42 kilomètres. Et tout ça, après, on est sur les genoux. On a usé les jambes. On n'a plus rien. Surtout moi. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne dans cette vidéo. Il y a la musique avec. Hein, je ne sais pas si tu as pu le brancher sur... Non. Bon. Mets la prise de l'iPhone sur la prise de devant. Elle est devant toi. Elle dure 4 minutes, cette vidéo, mais elle est touchante. Alors, vous pouvez l'avoir vue, hein, mais ça ne fait jamais de mal de la revoir. Who taught the sun where to stand? 4 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course. Est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés les premiers? On s'en fout. On s'en fout qu'ils soient arrivés les premiers. Ils ont fait la course. Ils ont fait la course. Et Dieu, ton Père, te demande de faire la course. Et tu peux lui demander, tu peux lui dire, Père, on fait la course ensemble, il vous dira oui. Et pour ça, il faut connaître son Père. Il faut accepter que le Père dise « Ok ». Est-ce que vous pensez que le Père l'a aimé, son fils ? premier qui me dit non, je sors le fusil de chasse. Dieu aime, enfin, le Père ici aime son Fils à tel point qu'il a fait un sacrifice énorme. Vous vous rendez compte? 4 km de natation à tracter un zodiaque derrière? 180 km de vélo? Ouais, j'en fais 5, moi je suis mort. Alors d'ailleurs que j'en fasse du vélo. Le mot amour, 164 fois dans la Bible. Le mot amour, 164 fois dans la Bible. 40 fois dans l'Ancien Testament, 120 fois dans le Nouveau Testament. Le mot haine, haine, de la haine, 20 fois dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, 0. La présence de Dieu nous vous amènera forcément dans l'amour. Quel type d'amour? Le type d'amour sera en fonction de la circonstance, mais Dieu nous amènera dans l'amour. Juste un témoignage. J'écoute souvent les prêches de Claude Oud. À un moment, Claude Oud explique qu'il se balade quand il est à Montréal. Ils sont 3000 dans l'église, donc forcément, ils croisent des chrétiens de l'église. Et un jour, il est en train de faire des courses et il voit un petit garçon qui est là et il le pointe du doigt. Et la mère est là, elle dit, attends, pointe pas du doigt, ça se fait pas. Elle dit, maman, c'est le monsieur de l'église qui fait du bien à tout le monde. Et il dit après que c'est le plus beau compliment qu'on lui ait fait. Parce qu'on se doit de rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va nous faire développer notre amour en Dieu et envers notre prochain. Et l'amour que l'on aura pour notre prochain nous donnera ses ailes, ce feu, pour aller. Pour aller, trois points de suspension. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on dise aux gens que Dieu les aime. Non pas pour faire du prosélytisme, mais pour faire de la quantité dans l'église. C'est vrai qu'on aimerait bien être tous les dimanches 500 dans l'église, et encore. Mais de dire aux gens, mais Dieu t'aime, et un jour tu seras en face de lui. Même que si tu ne crois pas en Dieu, sache que tu seras en face de lui, tu goûteras à sa présence. Il vaut mieux que tu la goûtes avant de mourir qu'après mourir. Parce que quand tu la goûteras avant de mourir, eh bien tu auras la possibilité de faire quelque chose de bien, et de pouvoir grandir spirituellement, et de vraiment être dans la présence de ton Père. Tu peux me remettre le PowerPoint, s'il te plaît? Je termine là. Je termine. J'ai duré un peu longtemps, désolé. Juste la 11, là, ouais, la 11. Mets-moi sur la 11, comme ça, je vais zapper. Je vais juste finir par ça. Là, tu mets en diaporama. Diaporama à droite, là-haut. Ou en bas, ouais, peu importe. Mais il va te remettre à la première. Ah, il t'a remis à la première. Vas-y, zappe avec la flèche. Bref, peu importe. Soyons attentifs à ce que Dieu veut. Je vais juste me moucher parce que les larmes plus le rhume. Bienvenue à tout le monde. On a dans Samuel, je vais en parler avant que, comme ça on va, hop. Parle ton serviteur, écoute. Samuel est dans son lit, c'est ça là juste après. Samuel est dans son lit et puis... il entend une voix, Samuel, Samuel. Et Samuel se lève, il va voir le prophète qui est à côté et lui dit, c'est toi qui m'as appelé? Ah non. Il se recouche. Et puis Samuel entend encore une voix, Samuel, Samuel. Il se relève, il va voir Élie. Élie lui dit, mais non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Va te recoucher, allez, dors. Troisième fois. Pareil, Samuel, Samuel. Et là, Élie percute, il dit, va, couche-toi. Et quand tu entends cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu appelait Samuel audiblement, sa présence était là, palpable. Et Dieu avait des choses à dire à Samuel. Il lui dit, Samuel, j'ai besoin de toi, écoute-moi. C'est difficile d'entendre la voix de Dieu, c'est difficile d'obéir à la voix de Dieu. Mais soyons attentifs à sa présence. Parce que si on est attentif et si on goûte à sa présence, forcément, Dieu nous parlera audiblement. Dieu nous donnera des directions. Dieu nous dira ce qu'il veut de nous, pour que l'on puisse chacun avoir notre action pour lui et avec lui. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à demander à Dieu, dire Seigneur, ok, je fais l'engagement. Attention, ne prenez pas cet engagement à la légère. Parce que si vous dites à Dieu, ok, Seigneur, je veux être ton serviteur, attendez-vous à ce qu'il réponde. Moi, j'ai soif de ça. J'ai soif de goûter la présence de Dieu encore plus. Je suis fainéant des fois, un peu trop fainéant pour me mettre dans ma Bible, pour me mettre dans un contexte où je peux entendre la voix de Dieu. Ou même, on parle. Et je suis sûr que des fois, Dieu nous dit, mais tais-toi, écoute-moi. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Et à partir de là, Dieu nous montrera. Et Dieu nous guidera. Dieu nous dira ce qu'on a à faire. Et Dieu nous montrera des choses, parce que dans sa présence, il se passera des choses. On a un grand Dieu. Si on a un grand Dieu, il ne peut y avoir que des grandes choses. Par contre, si on a un petit Dieu, il ne peut se passer que des petites choses. Vous croyez ça? On va se lever et on va prier pour ça. Soyez honnête avec Dieu dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, ok, moi je veux goûter ta présence. Donne-moi ce changement de caractère pour que je puisse vraiment avoir cette acuité visuelle, auditive, de cœur, etc. pour pouvoir entendre ta voix. Et à partir de là, j'entendrai tes directions. Seigneur, vraiment, je te rends grâce. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu es un Père. Tu es un Père qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Tu es un Père qui est là, qui veut nous donner le meilleur chaque matin. Tu as des bénédictions nouvelles. Et ça, je crois, Seigneur. Je crois que tu es là, Seigneur. Je crois, Seigneur, que cette Église, elle est là parce que c'est ton Église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas quatre murs, mais c'est une épouse. On veut élever une épouse qui soit digne de ton Fils. On veut, Seigneur Jésus, être comme toi tu le souhaites, que l'on puisse avoir cette croissance spirituelle et être attentif, avoir une oreille aiguë, aiguisée, Seigneur, pour pouvoir entendre ce que toi tu veux de nous. Vraiment, Seigneur, je te rends grâce parce que ce matin, Seigneur, tu vas bénir les cœurs de ceux qui ont cette sincérité avec toi, de dire, Seigneur, je veux goûter à ta présence. Je veux pouvoir m'inonder, rentrer dans ce torrent d'eau vive que toi et toi seul est capable de faire couler sur nous. Vraiment, je te bénis, Seigneur. Merci pour ces moments de partage. Touche les cœurs, grave-nous, tatoue-nous, Seigneur, ton nom dans notre cœur, pour que chaque matin, on puisse voir ce nom qui est tatoué, qu'on puisse, dès le matin, se dire, ok, tu es là, tu es près de moi, parce que j'ai ton nom qui est tatoué en moi. Vraiment, je te rends grâce pour ça, Seigneur. Amen. Je veux vraiment m'adresser à cette personne que j'avais ce matin. La peur que tu as, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne fait pas en sorte qu'on ait peur. Dieu, il est là au contraire pour chasser les craintes, chasser les peurs. Et si tu acceptes que Dieu agisse dans ta vie, si, et ça va dans le sens des paroles qu'on a eues, que ce soit de Rita ou de Sandy ce matin, le soleil se lève. Et à partir du moment où le soleil est à son zénith, il n'y a plus d'ombre, mais la chaleur est là, elle nous inonde. Cette crainte que tu as, remets-la à Dieu. Mets-lui dans ses mains. Mets-lui dans ses mains. Dis-lui, Seigneur, imagine Dieu. Et, Seigneur, je te dépose ma crainte dans tes mains. Au pied de ton trône, je la dépose. Ça ne me concerne plus. C'est plus moi. C'est plus à moi. Mais toi, tu vas la gérer. Et à partir de là, Dieu agira dans ta vie. On va finir par un